Quand le projet semblable et différent est accueilli au lycée Saverne à l'Île-Jourdain, Madame Silva et quelques élèves de seconde rencontrent Sandrine Balza, médiatrice scientifique, Claudine Trémaud, Mylène Soulieu, chorégraphe, Frédéric Vella, Nadine Vigouroux, chercheur de l'IRIP du CNRS. En quelques semaines et quelques heures, le projet danse se construit avec les adultes de l'AJH du foyer des Pins de Rieum.
Emma, donc on est au lycée Joseph Saverne du Jourdain. On fait un quiz, enfin un bingo sur, au sujet de l'handicap.
Comment ça se fait que tu peux avoir toutes les réponses?
J'ai réfléchi et d'accord. Je savais des choses.
Alors, quelles choses tu savais?
Que tous les handicaps ne sont pas visibles et que la télécommande du téléviseur n'a pas été inventée pour les paraplégiques.
Et tu sais pour qui elle a été inventée?
Pour les voyants?
Je sais pas.
Est-ce que la télécommande a été mise pour les personnes paraplégiques?
Oui.
D'après vous, Oui.
Donc il n'était pas tout à fait bon ton bingo là.
Marine-Eva, quelle était la question la plus difficile?
Combien pèse la version braille du premier tome d'Harry Potter? 3,5 kilos.
C'est beaucoup d'après toi?
Oui, c'est lourd.
Lucas?
Et là, je t'interview et toi, tu as les yeux bandés. Est-ce que c'est gênant de répondre à des questions à quelqu'un que tu connais pas avec les yeux bandés?
Un peu, oui.
Qu'est-ce qui te manque?
De voir la personne à qui je parle. Ah. Il y en a combien en tout?
3, je crois.
Oui, il y a la sourire.
Tu l'entends qu'elle a le sourire?
Ah, oui.
Voilà.
Alors, c'est quoi le jeu là ici?
C'est un jeu de mémoire.
C'est un mémoire.
Un peu différent parce qu'on a des noms de maladies, il faut retrouver le symbole qui va avec.
Non, en fait, c'est pas un peu différent, ça doit se compléter avec des mots ou des images. Comme la trisomie 21. Ouais.
C'est 3 chromosomes avec 21.
La phasie, une bouche barrée.
Et la cécité avec un œil barré.
Vous en reste encore
deux paires.
Mais handicap mental, c'est rien.
Mais c'était quelque chose.
Handicap mental. Et c'était quoi l'autre déjà? Autisme.
Je crois qu'on s'est trompé. Bah, c'est pour parler avec. Oui. Ils ont du mal à dialoguer, donc ça va ensemble.
Ouais. Bah, du coup, handicap mental, il va avec rien.
C'est bizarre.
C'est un peu bizarre.
On a vu du braille avec les.
En fait, il y a un bout de tissu pour ne pas voir les petits points, pour que ça soit plus facile et pour qu'on se mette dans la peau d'un aveugle pour lire du braille.
Tu lis le braille avec quoi alors?
Avec mon index droit au toucher.
Qu'est-ce qu'il fallait découvrir comme mot?
Échanger, capacité,
inclure.
Et moi, c'était adapté.
Pour les besoins du jeu, enfin, vous voyez, non, justement, vous sentez. Là, c'est la taille réelle du braille. Effectivement, tout à l'heure, tu l'as dit, comme sur les boîtes de médicaments, dans les ascenseurs.
C'est quelque chose qui vous paraît normal. J'ai juste une petite question à vous poser. Comment font les personnes aveugles pour voter? Les bulletins de vote ne sont pas en braille.
Il y a quelqu'un qui les aide.
C'est l'inaccessibilité. Les questions d'inaccessibilité et d'inclusion passent aussi par ces questions-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bulletin de vote pourrait être écrit en braille également, comme sur les boîtes de médicaments, maintenant c'est une obligation, eh bien la personne aveugle, elle va voter seule, elle a besoin de personne. Elle est autonome.
Mais Manon. Ben, le but du jeu, c'était de se bander les yeux et de trouver les mikados carrés. Et il fallait dire lequel était le plus petit. J'ai eu un problème parce que j'ai fait tout tomber et que du coup, si j'avais dû ramasser, je sais pas comment j'ai fait.
Et toi, c'était quoi la difficulté?
Juste que j'ai mélangé ce que j'avais mis à part avec ce que j'étais en train de fouiller.
Mais oui, mais on a pu les toucher avant de... en les voyant. Donc on savait déjà comment ils étaient.
Mais on savait que c'était carré. Hein.
Prudence. On travaille sur l'handicap.
Tu sais que tu vas faire de la danse?
Ah oui, je sais, mais je sais pas danser, donc j'aime pas devant les autres.
Alors en fait, ce qu'on va essayer surtout aujourd'hui, c'est de repérer l'importance qu'on a de nos sens, de notre corps. Hein. Ben, c'est important d'avoir des bras quand on n'en a plus, faire avec. L'importance de tous nos sens, que ce soit la vue, l'oreille, etc. On va faire un espèce de petit jeu en aveugle, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va avoir les yeux fermés, l'autre qui va être le guide. Alors effectivement, le guide, il a une grosse responsabilité. Alors évidemment, la consigne, c'est mettez-vous dans la situation des gens qui ne peuvent pas parler, c'est d'être muet.
C'était facile.
Mais c'est pas moi qui le faisais, c'était Ilana.
Oui, mais tu l'as guidée.
Oui.
Et alors?
Bah, c'est un peu compliqué d'esquiver les gens, mais ça va.
Et t'as réussi à avoir confiance, toi?
Oui, ça va. Mais apparemment, à part des fois où elle me faisait toucher les tables et tout ça.
Est-ce que tu as eu un bon guide?
Pas trop, non. Il me faisait un peu foncer partout, mais bon. Après, ça allait.
Après quoi?
Après que je lui ai dit d'arrêter, ça allait.
Donc il serait pas un bon guide aveugle?
Non, pas du tout.
Et surtout, il faisait que parler, non?
Non, ça va.
Des fois, ouais. Des fois, il comprenait rien aussi.
Non, mais...
Donc,
Et comment donc, on peut compliqué. Faire comprendre à quelqu'un qui ne voit pas, alors?
Il faut lui prendre la main pour le guider.
En fait, tu lui entraves sa liberté en
non, mais
lui faisant toucher.
Elle n'arrivait pas à ramasser un objet par terre, alors j'ai pris la main et je l'ai mis sur l'objet.
Est-ce que ça te plaisait, qu'on te prenne la main non. et que tu touches un objet que tu ne connais pas?
Non, mais bah après, il n'y avait pas le choix.
Voilà, ben c'est très intéressant le mot j'avais pas le choix. Parce que qu'est-ce qui ressort notamment du club, hein, c'est ça, perte d'autonomie. Hein, et ce que peut imposer l'autre.
Est-ce que c'était un bon guide?
Oui. Je suivais en fait. J'étais pas poussée, je suivais. Elle m'a fait toucher tous les objets qui avaient un peu éparpillés dans toute la salle.
Et alors comment t'arrivais à la guider sans qu'elle ait peur?
Ben, parce qu'elle me fait confiance.
Tu as demandé à ton guide, mais où est la porte?
Ah ben oui, et je lui ai répondu qu'elle devait être là-bas.
Pourquoi tu lui as demandé où est la porte?
Pour me repérer dans la salle. Parce que je sais, ben, quand je suis arrivé, je savais où était chaque chose par rapport à la porte. Du coup, je lui ai demandé où était la porte.
Donc c'est important de se repérer.
Ben oui.
Alors, quelle sensation, là?
Mais ça donne envie de vomir à la fin quand on tourne.
C'est physique, enfin, faut tenir, quoi.
Alors, c'était comment, Prudence?
Bah, c'est bizarre. Je sais pas.
Marine.
Moi, j'ai pas trouvé ça très difficile.
Et j'arrive pas à tenir un équilibre après avoir tourné. C'est...
On perd le sens de l'équilibre.
Ouais.
Ça va, c'est facile?
Oui, oui, ça va. Faut juste garder l'équilibre.
Et c'est silencieux.
Ça va la position?
Oui, ça va.
Tu peux expliquer?
Je prends support sur ses pieds et elle aussi. Du coup, ça fait un contrepoids chacune et du coup, on garde l'équilibre grâce à ça.
Et comment on arrive sur l'image?
Debout.
C'était quoi les difficultés?
Mais les difficultés, c'était de la cohésion de groupe. C'était tous de s'intégrer.
Il y a un problème de temps, hein, c'est ça?
Oui, de temps, oui, surtout de... Voilà, c'est le temps. Oui.
Les difficultés avec la danse, ça va?
Oui, ça va, ça passe. C'est de la tête.
Ça va, Prudence?
Oui, ça va.
Comment c'était aujourd'hui?
Bah, ça va. J'ai pas eu l'habitude d'inventer une danse.
Bon, alors par rapport à tout à l'heure...
On va avoir la peur.
Oui.
Mais ça allait mieux après parce qu'on était plus proches, parce qu'on a créé une choré tous ensemble.
Oui.
Du coup, on avait moins cette appréhension de l'inconnu et toute cette peur, justement.
Bon, alors, Anthony, comment c'était cette séance?
Physique,
ouais.
Sportif.
Ouais. Avez-vous une chance de gagner l'étination?
Je pense que.
Avec un peu de physique.
plus de physique, un recrutement de la part du coach.
Ouais. Alors cette dame, ça, c'était bien?
Oui, oui.
Il y a des chances que vous allez faire carrière dans la danse plus tard?
Non. Pas de carrière.
Ah, dommage. Ouais, c'est pas grave. Merci à vous, Anthony. De rien.
Fait la même chose, c'est comment chacun va faire à partir d'une idée collective. C'est la singularité, on est vraiment sur l'imagination et la particularité de chacun et comment avec ça on a navigué en peu de temps pour s'appliquer. C'est Gotham Project, la musique.
Très simple et que on a beaucoup à améliorer et que à un moment donné on ne pense pas qu'on allait y arriver à faire cette danse et je pense que en fait on arrivait à le faire tout ensemble, à se faire connaissance et à se connaître et c'est comme ça qu'on s'est fait des amis, et c'est comme ça qu'on s'est fait des programmes.
Est-ce que ça change quelque chose pour vous d'avoir fait ça?
Oui.
Oui, parce qu'au bout d'un moment, il fallait se faire confiance, tout pour le déséquilibre, et se rapprocher, c'était bien. C'était bien.
Moi, je voulais tous vous remercier pour votre générosité, votre disponibilité, c'est jamais facile. Et je trouve que vous avez joué le jeu et puis j'aime beaucoup comment vous avez réussi à trouver les équilibres ensemble avec quelque chose de très simple et de très spontané. Je vous salue.
Ce qui est intéressant, c'est que ce projet s'appelle Semblable et différent. Et au départ, il est là la rencontre avec des personnes en situation de handicap et le regard porté. Et finalement, vos commentaires se dirigent plus vers la danse, finalement, cette rencontre qui, on a l'impression, était spontanée et normale et tout que simple. Et le parallèle que je voulais faire entre la danse et ce regard porté sur les personnes en situation de handicap, c'est justement que vous êtes là mis en position de regard et donc de jugement face à des personnes que vous connaissez, mais c'est vrai que ce parallèle avec le regard est vraiment important. Et là, vous allez avoir donc deux personnes, deux chercheurs à l'IRIT, donc l'Institut de Recherche Informatique de Toulouse, qui travaillent sur des outils de compensation du handicap, des outils informatiques. Et on en avait parlé en tout début de projet, hein, à partir du moment où le handicap, la situation de handicap arrive à être compensée, eh bien, l'autonomie de la personne est préservée et donc forcément le regard porté sur la personne.
On a bien dansé, j'avais un bon projet de groupe. Voilà, merci.
On a bien dansé, ça nous a pris d'être avec les handicapés, voilà.
C'est Rédic Ellipse, c'est Rédic Ellipse.
l'équipe intégration personnalisée. Ça veut dire, en fait, c'est une équipe qui a fait de l'intégration en machine. Est-ce que vous savez ce que c'est l'intégration en machine? Non. Ah ben, par exemple, c'est simple. Vous savez la télévision avec la télécommande? Vous savez d'où vient l'histoire? En fait, à l'époque, on a fait des télécommandes pour la télévision. À la base, c'était pour les personnes à mobilité réduite. C'était pour les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer pour appuyer sur un bouton sur la télé. Et donc,
excusez-moi.
Oui.
Et comment ils font pour comme vous êtes voilà. Comment vous faites en fait?
En fait, mon fauteuil électrique, si tu veux, il fait du contrôle d'environnement.
Ouais.
Je vais te montrer, je peux contrôler mon ordinateur à distance avec mon fauteuil. D'ailleurs, la manette de mon fauteuil qui permet de déplacer dans toutes les directions,
hein,
permettra de diriger le curseur de l'ordinateur. Et avec le bouton que j'ai sous le menton, ça me permet de cliquer.
Ok.
Voilà, comme ça je fais. Dans moi, avec mon fauteuil, j'ai ma maison est domotisée, je peux ouvrir la porte, je peux allumer la lumière, je peux zapper les chaînes sur la télévision, je peux tout faire avec.
Ok.
Voilà. Si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller, il faut foncer. D'accord ? Faites comme moi, défoncez les portes. Alors, je suis Frédéric Vella, chercheur au CNRS. J'ai fait ma thèse de 2004 à 2008. Ensuite, je suis allé en postdoc au CHU de Toulouse, à l'hôpital d'Arabe. Après, j'ai pu rentrer au CNRS. Donc, ça a été intéressant comme expérience parce que bon, il fallait faire son projet de recherche. Et après, surtout, après, c'était derrière Paris de faire une présentation de son projet de recherche devant une vingtaine de personnes, sur une vingtaine de chercheurs. C'était impressionnant, ça aussi. Normalement, un membre du jury, c'était pas plus de 4 ou 6. Et là, j'ai eu toute la session du CNRS est venu voir. Et après, puis là, ben, quand j'ai été embauché au CNRS, ben, mon rêve de petit garçon s'est réalisé. Parce que c'est vrai que c'était un rêve depuis tout petit, parce que je lisais pas mal de magazines scientifiques et tout, et je voyais que la structure, c'était souvent le CNRS, et c'était super intéressant. Et d'être arrivé, ben, c'est le fait en soi. Quoi. C'est une myopathie, une amyotrophie spinale, voilà, de naissance, bien sûr.
Comment a été votre parcours scolaire?
En fait, j'ai fait un cursus ordinaire toute ma vie. J'ai une soeur handicapée comme moi, que ma maman a mis dans le centre. Et puis, bon, elle a vu qu'elle n'était pas heureuse, tout ça. Et du coup, elle n'a pas voulu faire la même erreur pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mon parcours ordinaire de la maternelle jusqu'à la thèse. Et en fait, bon, j'ai rencontré des problèmes justement à propos du regard. Au début, on avait peur, les parents avaient peur du handicap pour leur enfant, tout ça. Finalement, ça s'est bien passé. Après, ce qu'il y a eu, c'était des regards de la part des profs parce qu'ils pensaient que je n'allais pas pouvoir suivre plus tard. Et du coup, ils voulaient me mettre dans un centre. Et ma mère et moi, ben, on s'est battus parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas de raison. Du coup, je suis allé dans les dernières étoiles privées, un lycée privé, où là, tout s'est bien passé. Et du coup, j'ai été considéré comme une personne ordinaire. C'est ça qui a été magique. J'ai même pu faire du sport, première fois dans ma vie, et passer en épreuve au baccalauréat. Donc ça, c'était un point que j'oublierai jamais.
Et c'était quel sport?
Alors, j'avais plusieurs épreuves et j'avais choisi l'épreuve tir à Saint-Bacane. Ça, c'était assez sympa. Ensuite, ben, j'étais à l'université où il n'y avait pas grand-chose d'aménagé. Donc, ça se passait au fur et à mesure que j'arrivais dans les semestres. Donc, quand j'arrivais au début, on voyait les salles où il y avait des cours. Celles qui n'étaient pas accessibles, on les rendait accessibles, petit à petit. À partir de là, ben, ça s'est bien passé. Bon, je n'ai pas pu faire le métier aujourd'hui.
C'était quoi?
Astrophysicien. Alors, j'étais bon en physique, tout ça, mais c'était un métier que je ne pouvais pas faire parce qu'à l'époque, l'informatique n'était pas encore assez développée à ce niveau-là. Pour le côté orientation des télescopes, des choses comme ça. Et donc, du coup, je me suis orientée vers l'informatique. Parce que quand j'ai fait un stage à l'Observatoire Midi-Pyrénées, on m'a dit, fais de l'informatique et quand tu seras au point, tu reviens vers nous. Et c'est là, justement, j'ai rencontré Nadine après. Mais entre-temps, j'ai fait plusieurs stages pour voir vers où je voulais aller. Et du fait que j'ai rencontré Nadine, ben, l'intéressant de ma fille m'a plu. Et en plus, les situations de handicap étaient intéressantes du fait que ben, j'ai eu ce handicapé, j'ai un neveu autiste malheureusement. Et justement, ça me permet aussi de mettre mes connaissances à leur service aussi, de manière personnelle à la famille.
Et la thèse, elle portait sur quoi?
Alors ma thèse a porté sur la saisie de test, sur les interviews virtuels. Et en plus, sur la modélisation, justement, faire des modèles de pathologie pour la saisie de test. Et après, ces modèles-là permettent justement de savoir si on, quand on conçoit un clavier, c'est adapté ou pas à la pathologie. Donc j'ai fait sur la myopathie, tétraplégie, en référence avec le modèle des personnes valides. Voilà, c'était ça ma thèse.
Et est-ce que vous avez eu des référents, comment dire, comme des héros?
J'ai eu des référents, comme par exemple Philippe Boissière. C'est la personne qu'on a vue à l'écran. Enfin, je vous ai montré que je communiquais avec lui. Bon, c'était un peu difficile parce que moi, pour communiquer, j'avais besoin de la lecture labiale. C'était une information supplémentaire pour moi. Bon, pour moi, c'était un référent. Du coup, c'était un modèle. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis justement d'avancer ça aussi. Après, ça, c'était pendant le début de ma thèse, j'étais à faire. Mais avant, j'avais ma sœur aussi comme référent. Parce qu'elle m'aidait pas mal et tout ça. Et je voyais que finalement, le handicap, ça me permet de faire beaucoup de choses et de ne pas rester dans son coin, entre guillemets, rien faire. Et après, oui, Stéphane Moutier, qui est maintenant malheureusement décédé, oui, c'était un référent depuis tout petit que je voyais sur son histoire.
Donc Nadine Bigourou, chercheur CNRS à l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse.
Ce qui est important, c'est de connaître les besoins des personnes en situation de handicap. Pourquoi on va faire l'aide de compensation? Et il faut comprendre aussi pourquoi, si on fait une aide de compensation, pourquoi elle ne convient pas et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a beaucoup d'aides de compensation. Hein. Si vous allez sur des recherches sous Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous tapez aide de compensation, vous allez en trouver des centaines. Mais répondent-elles aux besoins? Comment sont-elles utilisées? C'est une vraie, véritable question. Et on s'aperçoit que malgré beaucoup de solutions, il y a encore beaucoup de choses à faire parce que, en fait, elles existent, mais elles ne répondent pas. Et on va voir, nous, comment on a fait pour répondre, par exemple, à une aide de communication pour cette personne qui avait une situation pas d'usage de ses mains et pas de langage. Donc comment on fait? On veut dire aussi que la différence enrichit. Notre tandem, Frédéric et moi, effectivement, c'est une réussite, d'abord sur l'insertion professionnelle et sociétale de Frédéric, mais c'est également sur la collaboration dans ce développement des aides de compensation et dans la compréhension du besoin. Parce que moi, des fois, je vois des choses avec mes yeux de personne normale et je ne vois pas ce que Frédéric n'arrive pas à faire ou sentir, effectivement. Ouais. Voilà. Et donc, ce qu'on voulait dire, c'est comment la recherche et l'innovation technologique qu'on essaie de mettre en œuvre peut contribuer donc à rendre plus d'autonomie et favoriser l'inclusion sociale de ces personnes en situation de handicap. À l'IRIT, aussi, il y a une particularité, et vous, peut-être vous pouvez vous interroger, c'est que certains de mes collègues sont des personnes en situation de handicap. Donc, vous voyez, même ce métier de chercheur peut aussi être tenu par une personne en situation de handicap. Il y a le cas de Frédéric que vous avez devant vos yeux. On a aussi trois autres collègues, deux maintenant. Un collègue non-voyant. Donc comment est-ce qu'il fait? Un collègue malvoyant. Et on avait un collègue aussi, un infirme moteur d'origine cérébrale. Et comment on s'exprimait avec lui? Comment on faisait? On essayait de travailler avec lui. Voilà.
Vous êtes une scientifique femme.
Oui.
Quelles sont les difficultés quand on est scientifique femme?
Alors la difficulté déjà, c'est l'isolement, parce que je suis la seule femme dans une équipe de chercheurs, enseignants-chercheurs. Parfois, c'est la difficulté effectivement de se faire accepter en tant que femme. Oui, on peut dire un handicap social. Voilà, par cette difficulté de pouvoir partager et d'échanger avec mes collègues. Oui, et puis les hommes, ils sont des fois plus autoritaires, effectivement. Voilà, pas forcément, mais parfois certains sont plus autoritaires. Voilà, mais bon, j'ai des collègues chercheurs en situation de handicap qui sont très riches, et donc ça compense la difficulté parfois.
Il faut faire plus de recherches pour que les handicapés, enfin les personnes en situation de handicap, puissent avoir plus de moyens pour évoluer dans la vie.
Mais maintenant, ça donne plus envie de les aider, en fait, pour leur quotidien, pour qu'on les considère beaucoup moins différents de nous.
Merci à l'accueil du lycée Saverne, aux participants et aux participantes. Projet des chemins buissonniers, en partenariat avec la région Occitanie et la Fondation SNCF. Extraits musicaux, Cotent Project, Duremer, Jazard, musique sous licence libre. Mise en son, Claire Bigeot pour le Radisound.